Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
La minute Genèse 8:22 nous dit, la Bible du Semeur. Aussi longtemps que la terre subsistera, semaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Aussi longtemps que la terre subsistera, les saisons ne cesseront jamais. Il y aura dans notre vie des saisons que nous voulions ou non. On a vu vendredi soir, je ne peux pas tout répéter, mais le principe fondamental est qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Et en d'autres termes, Dieu crée un but et pour le but, il lui assimile, il lui donne, il lui assigne une saison. La saison ne permet pas de trouver le but, mais la saison permet d'accomplir un but. Malheureusement, bien souvent, nous prenons une saison pour trouver un but et nous manquons parfois, souvent même, le timing de Dieu. Nous avons vu ensemble qu'il nous faut absolument en ce moment être attentif à ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment? Ce que Dieu fait dans ma vie, dans celle de l'Église, il est crucial de comprendre ce timing-là. Parce que nous pouvons traverser les saisons en étant bénis, en ayant des bonnes réunions, mais sans comprendre ce que Dieu fait. Et si j'échoue à comprendre ce que Dieu fait, je passe une saison, ce qu'on appelle une saison stérile. Et Dieu ne veut pas que nous soyons stériles. On a vu ensemble qu'il y avait deux mots grecs. Chronos, c'est le temps qui passe, une durée de temps plus ou moins longue, courte ou longue. Chronos, et le mot grec kairos, qui dans le temps qui passe, il y a des moments, des saisons, des opportunités qu'il faut saisir lorsque Dieu nous les donne. Par exemple, il faut savoir semer dans une saison pour récolter le type de fruits que Dieu veut que vous récoltiez. On a vu ensemble qu'il y a des saisons, par exemple les jeunes, entre peut-être, je sais pas moi, 15 et 25 ans. Entre 15 et 25 ans, le temps n'est pas au mariage en général. C'est bien de se marier tôt, je peux se marier jeune. Mais il est temps, le temps est de pratiquer le maximum de principes bibliques pour être un homme ou une femme accompli. Entre parenthèses, il est très dangereux de croire qu'un couple est formé de deux moitiés. Souvent on dit, tu es ma moitié, mais c'est faux. On n'est pas des moitiés, nous sommes censés être 1 plus 1 égale 1. Et tant que tu n'es pas accompli, tu ne peux pas donner à l'autre ce dont Dieu veut que tu lui donnes. Ce que Dieu veut que je lui donne. Vous ne comprenez pas. Si je ne suis pas accompli, je ne peux pas lui donner. Et je vais commencer à avoir une relation déséquilibrée en disant, donne-moi ce dont moi j'ai besoin. Or, seul Dieu peut combler les besoins d'un être humain. Imagine deux êtres humains, un homme et une femme. Tous les deux sont accomplis devant Dieu. Ils ont vécu la saison de leur vie. Ils savent ce que Dieu attend d'eux. Ils ont leur jardin. Et ils se marient. Leur couple va être très vite extraordinairement loin. Mais si deux personnes se marient et que les deux ne savent pas ce que leur jardin, leur appel, leur destinée, ils ne savent pas qui ils sont, comment voulez-vous qu'ils forment un? Alors Dieu, par sa grâce, c'était ça pour Paul et moi, il va nous aider à devenir un, mais en quelle douleur! Parce que le temps que tu as avec ta petite amie ou ta femme, c'est le temps que tu n'as pas avec Dieu. Ouais, mais toi, c'est marrant pour toi, tu es marié. Oui. Mais je vous garantis devant Dieu ce matin que si Elodie et moi pouvions faire les choses différemment, on aurait fait les choses différemment, on serait mariés plus tard pour construire notre relation avec Dieu. Comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Alors vous, les célibataires, soyez heureux comme les célibataires. Comprenez cela. Il y a une saison pour tout. Les jeunes, je vous encourage à ne pas vous marier trop tôt, ni trop tard. Alors, il y a le kairos. On a vu qu'il y a pour toute chose une saison déterminée. Ecclésiaste 3:1 nous dit qu'il y a un temps pour tout, un moment pour tout. On a vu ensemble l'histoire, je ne vais pas tout refaire. On a vu que le timing était crucial pour comprendre et pour avoir l'effet désiré. Un groupe de louanges qui joue hors du timing ne peut pas donner le son et l'effet désiré. Il faut que chacun joue dans le même timing et le timing donne l'effet désiré. On a vu ensemble que dans Ecclésiaste 8:5, le cœur d'un homme sage discerne à la fois le temps et le jugement, car pour chaque but il y a un temps et un jugement. Ça veut dire que le cœur d'un homme sage sera à la fois quoi faire et quand le faire. Il discerne le timing. Chaque but chaque affaire a son moment opportun et son jugement. Il est vrai, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens ratent les opportunités de Dieu. Dieu, par sa grâce, va les reproduire tôt ou tard aux différentes opportunités. Il n'est pas un Dieu méchant qui dit « débrouille-toi ». Non, il va te donner d'autres opportunités. Mais si tu les rates, tu rates les fruits que tu aurais dû avoir. Il est donc important ce matin, donc pasteur et ce matin prophète avec vous, de vous dire arrête-toi quelques secondes, quelques minutes ce week-end et réfléchis bien à ton timing. Certains veulent être dans le ministère tout de suite, ils veulent être dans le ministère, prêcher dans le monde entier, mais leur mariage n'est pas solide. La saison pourrait être celle de, qui dit travaille sur ton mariage. Il y a des jeunes qui veulent arrêter l'école, c'est la mode, pour être dans le ministère, comme si le ministère c'est le ramassis de tous ceux qui ont raté l'école. Ok, comme je suis à l'école, je suis dans le ministère. Waouh! Et tu crois que Dieu va te faire confiance à toi, qui ne veut même pas apprendre 2 plus 2 égale 4? Et tu vas être capable de juger son peuple, mais réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts. Les gens pensent que le ministère, le service pour Dieu, c'est j'arrête tout, comme je suis nul là-dedans, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Ah ouais! Dieu n'a jamais dit que nous allons partir de catastrophe en gloire. Ou de chaos en gloire, mais de gloire en gloire. Fais de ton quotidien un quotidien glorieux afin que tu aies accès à la gloire supérieure. Alors vous les enfants, les petits-enfants, travaillez dur à l'école. Soyez les meilleurs, soyez dans le top 3. Si vous ne pouvez pas, c'est pas votre style, soyez dans le top 3 des meilleurs sportifs. Le meilleur dessinateur, soyez meilleur quelque part, montrez à Dieu que vous êtes qualifiable. La médiocrité disqualifie. Et la médiocrité, ce n'est pas un accident, c'est un choix. Ce matin, Dieu veut dire à son église, un homme sage réfléchit, pense, une femme sage réfléchit, pense à la saison dans laquelle elle se trouve et elle met tous ses efforts, il met tous ces efforts pour que la saison soit glorieuse afin d'être appelé de gloire en gloire. On a vu ensemble qu'il y a un moment dans le chronos, il y a un moment spécifique pour toi et pour moi pour travailler. On a vu ça dans le psaume 1. Écoutez bien comment c'est puissant. Le psaume 1 nous dit « Béni est un homme qui est prospère, est un homme qui est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. » Tout le monde dit « toujours ». Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, c'est ce genre de d'hommes et de femmes que nous voulons être. À chaque saison, nous sommes tellement attentifs à Dieu que dans la saison dans laquelle nous vivons, nous portons les fruits de la saison. Et donc, dans tout ce que l'on fait au fil de la vie, les gens nous voient, waouh, il est toujours en train de porter du fruit. Différents fruits pour différentes saisons, mais toujours en train de porter du fruit. Si dans une saison, tu es stérile, alors, c'est que tu n'es pas dans la saison de Dieu pour toi. Ce n'est pas le désert qui crée la stérilité. Parce que Dieu dit, je ferai des sources d'eau vive dans le désert. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert que tu n'as pas de chemin, tu ne sais pas où aller. Non, Dieu dit, je tracerai un chemin dans le désert. La relation avec Dieu ne peut pas te permettre de justifier le fait que nous, vous et moi, nous ayons un manque de fruits. C'est pour ça que je suis mon pasteur. Si l'église ne grandit pas, c'est qu'on n'est pas dans le timing de Dieu, ni proche de la source, ni proche du fleuve. Il nous faut être connectés à la source. Amen. On a vu ensemble qu'il fallait, dans Galates 6, c'est là où je vais prendre ce matin le message. La Bible nous dit, dans Galates 6, verset 9, il nous dit, il faut ne pas se relâcher, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous nous relâchons par nos efforts, nous récolterons, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Cela signifie qu'il y a des saisons de l'esprit dans lesquelles il faut travailler continuellement et ne pas se relâcher. Et le mot ce matin, se lasser, se relâcher, c'est le mot grec ekakeo. Et signifie, écoutez bien ça, hein, être absolument sans vigueur, épuisé et vidé. Il y a des chrétiens qui sont sans vigueur, épuisés et vidés. Et quand Dieu leur propose une nouvelle saison, ils sont incapables d'y entrer parce qu'ils sont épuisés, sans vigueur et sans force. Ils n'arrivent pas à continuer. Dieu dit, mais tu vois, tu vas rater ta saison parce que tu es vidé. Pourquoi ? Parce qu'on a gaspillé nos ressources dans des choses qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Si je suis continuellement dans l'esprit, mon corps, ma vie, mon âme est continuellement rafraîchi. Il y a des moments difficiles, mais je suis rafraîchi. Et quand Dieu me propose une saison, une opportunité, une action à faire, je suis dans l'esprit, je comprends la chose, je la fais. Mais celui qui n'est pas dans l'esprit, qui est fatigué, qui est vidé, qui s'est relâché, qui ne sait plus quoi faire, même quand Dieu lui propose une belle opportunité, il va dire le fameux « oui, mais ». Oui, mais je ne suis pas prêt. Oui, mais je ne suis pas en forme. Oui, mais mon mari. Oui, mais ma femme. Il y a donc un problème, c'est que tu n'as pas créé de ton quotidien un quotidien glorieux. Et c'est important de revenir ce matin en disant, je ne veux pas être fatigué, lassé. Donc se laisser avoir par le découragement, ça signifie que j'ai perdu mon zèle, ma passion, ma vigueur, ma force. Et le mot grec ensuite, se relâcher, c'est le mot grec ekluo. Donc le mot découragement, c'est le mot grec ekekao. Et le mot grec se relâcher, c'est écluo, qui signifie, écoutez bien ça, il signifie littéralement s'écrouler, se disloquer. Quand tu te relâches, c'est qu'en fait tu t'es disloqué, tu t'écroules. Et le nombre de chrétiens qui marchent en étant écroulés, totalement disloqués, incapables de faire le plan de Dieu au moment où Dieu leur demande. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est attaqué avec le stress, les combats, la fatigue, les problèmes, les soucis de la vie, les douleurs, les dettes, ce que tu veux. Ça te frappe et tu es disloqué, tu es découragé, tu ne peux pas continuer à garder ton zèle dans ta saison. Regarde ton voisin, dis-lui, les saisons de l'esprit sont activées dès l'instant où tu en es conscient. Parce que tant que tu n'es pas conscient de la saison de l'esprit, elle reste dans le domaine de l'esprit. Pour qu'une saison soit activé, il faut que tu sois conscient que cette saison-là, elle est présente, elle est réelle, elle est vraie dans l'esprit. Alors, comment ça se passe? Beaucoup de chrétiens me disent, mais je ne sais pas comment faire. Ben, tu perds courage et tu te lasses et tu te relâches et tu ne sais plus quoi faire parce que tu n'es pas conscient de ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu es incapable de semer les bonnes semences. Mon point, c'est que souvent, on se relâche. On n'est pas capable de semer la bonne semence parce qu'on n'est pas conscient de ce que Dieu veut faire. Amen. C'est extrêmement important de comprendre ça ce matin. Rapidement, Galates 6, 7 nous dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme a semé, il le récoltera. La version grecque Philips nous dit, la récolte d'un homme dans sa vie dépendra entièrement de ce qu'il sème. La récolte n'est jamais accidentelle. Tu peux pas dire, Dieu, allez, s'il te plaît, fais un effort, je m'excuse, mais j'ai quand même une bonne récolte. Il te dit, tu vas pas semer, tu récolteras pas. Et ce n'est pas seulement dans les finances, là. Ce verset-là parle de la récolte qui correspond directement à ta semence. Question, qu'est-ce que tu sèmes en ce moment? Si tu veux un mariage puissant, est-ce que tu sèmes des semences d'amour, de pardon, de réconfort, d'encouragement? Tu veux des finances, tu veux être un milliardaire, et ben sème dans les principes de la parole de Dieu, fais ce que la parole de Dieu t'enseigne. Tu veux être un pasteur ouin, passe du temps à savoir comment avoir l'odeur des brebis. Tu veux être un prophète, étudie les prophètes, écoute des prophètes, fréquente des prophètes et prophétise. Et dans 10 ans, tu seras un prophète. Tu veux une église ouin qui influence et impacte une nation, sème dans ton église. Parle à l'église, donne-leur tout ce que tu sais, donne-leur tout ce que tu as, donne-leur toute ton énergie. Mais on ne peut pas avoir une église de 3000 membres un jour ou d'une nation entière si l'église ne se sème pas elle-même dans les autres. Tu veux une nation changée, transformée? Va dans les rues, sème ta vie. Qu'est-ce que tu sèmes en ce moment si tu veux la récolte que Dieu a pour toi? Qu'est-ce que je sème en ce moment? Je veux la récolte que Dieu a pour moi. La grande question, c'est je veux la semence de Dieu maintenant. Seigneur, ta semence c'est celle-ci, je prends celle-ci, pas la tienne, la sienne. Si tu n'aimes pas la récolte, ne blâme pas les autres. C'est ta récolte, pas la mienne. Qu'est-ce que moi je fais avec mes semences? Je ne peux même pas semer celle de Steve. Je ne peux semer que mes semences. Alors ce matin, je vais finir par un point important. Et je finirai une autre série vendredi soir, parce que j'ai pas pu tout finir, c'est trop important pour nous en ce moment. Premier point, c'est qu'il y a une saison déterminée pour chaque être humain. Deuxième point, c'est qu'il y a un moment voulu. C'est que dans la saison déterminée, la saison déterminée arrive à un moment voulu. Donc Dieu prépare des saisons en avance, tout d'un coup il les active. Bam! Il active quand moi je reconnais qu'elle est là. Et comment faire alors lorsqu'on rate une saison, on manque une saison? Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on manque une saison? Et qu'est-ce qui se passe quand on manque une saison? La Bible nous dit que nous pouvons créer nos propres saisons. D'accord ? Nous pouvons créer nos propres saisons. Dans Hébreux 11, 15, passage très puissant, parle d'Abraham et de sa femme Sarah. Il dit, s'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion, Kairos, d'y retourner. Il y a des gens qui pensent trop à ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient eu, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils avaient. Et en pensant à ce qu'il y avait derrière, ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu fait. Et ils sont toujours en train de retourner. Et ils stagnent. Ils sont un coin en haut, un coin en bas. Un coin en haut, un coin en bas. Parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce que Dieu fait en ce moment. Si tu veux que le passé de ton futur soit glorieux, rends ton présent glorieux parce que ton présent, c'est le passé de ton futur. Si tu veux que ton passé soit glorieux, si tu veux que le passé de ton futur soit glorieux, travaille sur ton présent, parce que ton présent, c'est le passé de ton futur. Écrivez la phrase et vous pourrez la dire plus tard, c'est très profond en fait. La Bible dit qu'ils auraient trouvé des occasions d'y retourner, s'ils pensaient trop ailleurs. Vous savez, votre propre saison, écoutez ça, regardez l'église, hein. Vous pouvez créer votre saison particulière en pensant à de mauvaises choses ou au passé, en pensant à tout ce qui se passe sauf ce que Dieu fait. Et dès l'instant où tu ne penses pas à ce que Dieu fait, tu crées une saison de stérilité, une saison de frustration, une saison où c'est difficile. C'est pour cela que parfois moi j'énerve des gens, parce qu'en plein milieu de la crise, là où tout va mal, il y a le mariage homosexuel, le mariage pour tous, toutes les galères. Moi, haut et fort, je déclare que c'est la plus belle saison pour que l'Église brille. Et ça énerve beaucoup de gens. Mais ça va pas, mais ouvre tes yeux, la France est maudite. Je dis non, la France est bénite. Bénite. Parce que tant qu'il y a un juste qui se tient à la brèche, la nation a une chance de transformer. Tant qu'il y aura un juste, c'est pas juste oui, voilà Seigneur, non, non, non. Le problème, c'est lorsque l'Église réagit comme la femme de Lot, qui s'est retournée pour regarder le passé et elle a perdu ce que Dieu voulait entreprendre dans sa vie. Une pensée errante, écoutez ça ce matin, c'est important. Une pensée qui erre, qui n'est pas disciplinée selon le cœur de Dieu, va manquer les saisons de Dieu. Si tu penses à tout, sauf à ce que Dieu veut que tu fasses, tu auras beau prier, supplier Dieu, tu n'auras pas les fruits de Dieu. Moi j'ai appris une chose, quand Dieu parle, j'agis. Pas dans 2 semaines, j'agis maintenant. L'obéissance retardée, c'est de la désobéissance. Et l'obéissance à 99%, c'est de la désobéissance. Et après l'Église dit, pourquoi on n'est pas béni? Pourquoi on galère? Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. J'ai appris avec mon Seigneur, quand il me dit fais telle chose, je ne questionne pas. Je préfère me tromper en essayant de l'écouter que de le désobéir par incrédulité. Dans Luc chapitre 1, verset 19 à 20, l'ange lui répondit à Zacharie. Il dit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. Ça commence bien déjà. Un ange débarque comme ça, je suis Gabriel qui se tient devant Dieu, tu devrais écouter. Voici, tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira, écoutez bien ça, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le problème, Zacharie, c'est pas qu'il a douté de la parole de Dieu, il a douté de la parole qui pouvait s'accomplir dans sa saison à lui. Il s'est dit, je suis trop vieux pour ça, c'est pas possible, je te trompe de gars, je veux bien que Dieu fasse un miracle, mais moi je suis trop vieux. On peut douter facilement du temps de Dieu. On peut dire, oui Seigneur, amen, je serai riche, je serai grand, je serai ce que tu veux. Oui, un jour. Problème de timing, le fait que tu ne crois pas au timing de Dieu peut être radical. Écoutez bien ça. Et j'ai écrit cette phrase dans mon cœur. Refuser le kairos de Dieu t'empêche d'être une voix pour Dieu. Refuser le kairos de Dieu t'empêchera d'être une voix pour Dieu. Ici, la Bible dit à Zacharie, tu seras muet. Tant que tu n'es pas conscient de ce que Dieu fait, tu ne peux pas être sa voix. Exemple, Dieu veut que tu portes du fruit dans ton mariage, mais toi tu oublies ton mariage. Tu penses boulot, fric, boulot, fric, fric, boulot, boulot, fric. Soi-disant pour ton mariage, mais ta femme elle est totalement brisée, seule à la maison.
Et le mari, ouais, je bosse comme un dur, tu vois, moi je bosse, ouais, je bosse, gagne un million, pff, ça va même mort.
Ah chérie, c'était pour toi, mais trop tard maintenant. T'as raté une saison. Mais pendant des mois et des années, tu n'as pas pu parler du mariage aux ceux qui souffrent. Tu peux pas être une voix pour Dieu parce que tu ne comprends pas ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment. Quand j'étais à Bordeaux, encore quelques jours de cela, j'ai pu prophétiser puissamment dans l'église et j'ai pu citer Extravagance en exemple. Ce que vous faites avec les personnes malades, les personnes âgées, les enfants, la pétanque, les groupes extravagances de vélo, ça va dans tous les sens. C'est incontrôlable, l'église. L'église est incontrôlable. Tout le monde fait plein de choses. Aujourd'hui, il y a de vélo après la célébration. C'est magnifique. Je me dis, waouh! Je disais à Bordeaux, voilà ce qu'on vit en ce moment. J'ai pu être la voix de Dieu parce que j'avais de quoi témoigner de ce qu'on vit en ce moment. J'ai pas dit oui, il y a 40 ans de cela, quand je me suis converti. C'était fort, il y a 40 ans de cela, c'était fort. Les gars disent, ouais, ben ouais, nous aussi c'était pareil. Hein. Mais quand ils entendent ce que Dieu fait maintenant, je suis une voix quand je suis dans le kairos de Dieu. En ce moment, je témoigne de ce que Dieu fait. En ce moment, je me dis ce que Dieu fait. Pas ce qu'il a fait à 40 ans, ce qu'il fait en ce moment. C'est ce qu'il fait en ce moment qui fait vibrer le monde. C'est ce qu'il fait en ce moment qui fera vibrer le monde. Psaume 37, verset 23. Psaume 37, 23 nous dit, les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Et que tu marches comme ça, tu es ordonné par Dieu, tu marches. Et les gens disent, waouh, cet homme-là, il y a un truc sur lui, il y a un truc qui se passe. Cette église-là, il y a un truc qui se passe. Dieu est en train de faire des choses et ça témoigne. Et vous allez voir une chose, à chaque fois que tu es témoin de la vie de quelqu'un dans laquelle Dieu travaille, tu sais que son futur est glorieux. Réfléchis à ça. À chaque fois que tu vois que Dieu travaille la vie de quelqu'un, tu sais que lui, son futur est déjà magnifique parce que son présent est magnifique. Mais si la vie est stagne, si elle est vide, tu dis, purée, je me demande comment sera son futur. Oui ou non? Donc la question, c'est est-ce que tu es au courant de ce que Dieu fait? Dans le psaume 31:15, le psalmiste dit, mes destinées, le mot grec, le mot hébreu, c'est mes temps, mes saisons sont dans tes mains. Mes affaires sont dans tes mains. Mais les choses que je fais sont dans tes mains. Je m'y conforme. Dans Éphésiens 5, 16, la parole de Dieu nous dit, rachetez le temps. Le mot grec là, c'est kairos. Rachetez les opportunités. Pas le temps qui passe, les opportunités. Car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ça en clair? Ça veut dire que dès l'instant où tu te rends compte que ta vie n'est pas équilibrée en fonction des saisons de Dieu. Et comment tu le sais? C'est simple. La paix, les fruits, l'amour, la joie, le repos de Dieu. Tu sens que tu lèves le matin, tu as envie de prier, adorer Dieu, tu as envie de parler aux gens de Dieu, tu as envie de l'aimer, tu as envie de sauter de joie, tu as envie. Quoi. Il y a un jour, temps où c'est Dieu, tu n'as pas envie, mais ce n'est pas tous les jours. C'est une grande saison, puis tu t'entends un moment difficile, mais ce n'est pas tous les jours le moment le plus dur. Et ça veut dire que tu sais, dans le timing de Dieu, tu veux faire les choses selon Dieu. Et ce matin, ce verset qui dit Éphésiens 5:15, tu sais, rachète le temps, le mot grec signifie veille donc sur ta conduite. Veille sur ta conduite, non pas comme un fou, mais comme un sage. C'est-à-dire prudemment. En fait, en grec, dans la version amplifiée, ça veut dire vivre d'une manière déterminée, réfléchie, dignement, utilement, avec exactitude et précision, non pas comme un insensé, un imprudent, peu judicieux, stupide comme des gens, mais comme des gens sages, raisonnables, judicieux, pratiques, intelligents. Dieu dit, attends, quand tu considères le temps de ta journée, sois pratique, méticuleux, précis, vraiment sur le timing de Dieu, pose-toi les questions. Demande à Dieu ce qu'il fait en ce moment. Verset 17 qui dit, ne soyez pas sans intelligence, déraisonnable, insensé, fou, stupide. La version amplifiée dit, ne soyez donc pas confus, imprécis, irréfléchis, inconsidérés, fous, stupides, mais comprenez et saisissez avec fermeté ce qu'est la volonté du Seigneur. Alors pourquoi est-ce que nous les chrétiens ont des vies inachevées ou stériles? Parce que nous ne prenons pas assez de temps pour réfléchir à ce que Dieu fait. Combien de fois cette semaine tu t'es assis réellement, seul devant Dieu? Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Que fais-tu pour mon mari, ma femme, mes enfants, mon pasteur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il va te parler, il va te dire ce qu'il t'aime, c'est un bon père. Il faut être prêt à entendre son cœur ce matin. Éphésiens 5, 18 nous dit, dans le même contexte, priant sans cesse pour toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. C'est 5, 18, hein, pas 6, hein, 5, 18. Qui dit, soyez toujours remplis et enflammés, exaltés, enthousiasmés par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand vous êtes au courant de ce que Dieu fait, quand vous êtes au courant de ce que Dieu fait, vous êtes enflammés, exaltés, exubérants, extravagants. Mon cœur de père dans l'église ce matin, c'est de te dire, nous sommes dans une semaine, dans un week-end fondamental.